It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Une thématique assez particulière que nous allons vous proposer aujourd'hui, et ce grâce à la maestria et l'ouverture d'esprit de notre invité du jour. Il est camerounais, il vit à New York, il est chanteur et développe d'album en album une musicalité originale et personnelle qui l'a conduit à faire paraître Voice Strings, un disque épatant où les cordes épousent les voix, où le classique épouse le jazz. Gino Citson, soyez le bienvenu.
Merci de me recevoir, bonjour, je parle.
Le résumé que je viens de faire est évidemment réducteur, mais j'ai eu le sentiment, en écoutant votre album, que vous vouliez rapprocher deux univers sonores que l'on oppose souvent, les œuvres écrites et l'improvisation. Est-ce que je me trompe ?
Vous avez tout à fait raison. L'idée aussi, au départ, c'était d'associer les voix aux instruments à cordes, en fait, qui font partie de ma formation musicale au départ. Parce que c'est vrai que très peu de gens le savent, j'ai chanté un peu de lyrique, un peu, quelque part, mais pas de manière très poussée et avancée, j'avoue. Ici à Paris, d'ailleurs, j'étais au conservatoire municipal, où j'étais imprégné de la musique classique, en fait, de manière inconsciente aussi, par le biais de mon père aussi. Enfin, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est vachement bon. Alors, à travers les chants grégoriens, à travers beaucoup de choses. Et l'idée, c'est vrai, c'était le voice string, c'est tout simplement aussi un jeu de mots, c'est-à-dire les voix et les cordes, voilà, tout simplement.
Les cordes des instruments classiques.
Les cordes des instruments classiques, voilà.
Vous dites dans le livret de ce disque que le violoncelle est un instrument qui vous attire. Pourquoi ?
Il me parle, il me caresse. C'est un instrument qui est très léger, très fin, en fait. Il se rapproche de la voix humaine. Je crois déjà que les instruments à cordes, l'idée c'était ça aussi. De nourrir avec toute cette profusion de styles qui font partie de ma culture musicale, de mes racines, que j'appelle les racines nomades, qui sont toujours là. Donc classiques, camerounaises et françaises, américaines aujourd'hui, depuis 15 ans. Et donc, quand je l'entends, le violoncelle, parfois, je me dis, c'est quelqu'un qui parle, en fait. C'est de la même manière que, lorsque j'entends un saxophone, parfois, je me dis, il est en train de me parler, qu'est-ce qu'il me dit, là? Quand j'écris, je ne pense pas forcément aux mots en termes de langage lié à une culture précise. C'est plus c'est un langage musical.
Ce sont des tonalités.
Ce sont des tonalités, voilà, voilà.
Est-ce qu'il faut connaître, ou est-ce qu'il faut beaucoup de connaissances musicales pour pouvoir associer les harmonies européennes classiques et le jazz afro-américain?
Quelque part, oui, quand même, parce qu'il y a une façon d'écrire. Au départ, quand j'écrivais les cordes, je me faisais un peu corriger par ces joueurs d'instruments à cordes. J'avais envie de connaître ces instruments d'abord, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'on écrit pour les cordes, Je voulais les écrire comme si c'était des voix, des gens qui chantaient, en fait. Et c'était intéressant parce que quand les gars ont regardé la musique, ils m'ont dit, wow, this is great, man, this is beautiful. J'ai dit, ah bon? C'est la première expérience pour moi en matière d'écriture de cordes, quoi. J'avais jamais fait ça. J'ai fait ça sur un album d'une chanteuse camerounaise qui s'appelle Caresse Fotso. J'ai écrit une ligne de violoncelle, tout simplement, et puis ça me parlait. Et après, je crois qu'il faut des connaissances, Je compte d'ailleurs prendre des cours avec Maria Schneider un de ces jours pour l'orchestration, de grands orchestres, mais pas dans le but d'écrire des cordes qui ressemblent à ce qu'on a déjà entendu. J'avais envie d'écrire comme je le ressentais, quoi, comme d'habitude.
Est-ce que ce sont des univers très différents, finalement, la musique classique et le jazz?
Pas tant que ça. Moi, je pense que ce sont des univers qui s'épousent facilement. On peut prendre des exemples. Il y a Billie Holiday qui ont fait des enregistrements avec des orchestres à cordes. Alors, pour mon cas, il n'y a pas de calcul au départ, il n'y a rien. Comme d'habitude, hein, je ne cherche pas à séduire forcément un public ou quoi que ce soit. Je veux parler à l'humain, c'est tout. S'il y a deux humains qui s'intéressent à ça, c'est tant mieux. Et il y a du travail derrière. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sincérité dans la démarche. Je ne suis pas un grand spécialiste de toutes ces musiques-là, mais j'ai écrit parce que j'entendais. Je suis comme un petit enfant qui est fasciné par la vie, par les musiques qu'il côtoie, par toutes ces odeurs-là qui l'entourent, en fait. Je ne mets pas de frontières, en fait. Donc, la prochaine fois, ce sera peut-être autre chose encore. J'en sais rien. Enfin, on verra bien.
Dans votre album que nous allons survoler pendant cette émission, il y a même une adaptation d'une œuvre de Gabriel Fauré, compositeur français du 19e siècle. Il s'agit de l'Élégie opus 24. Comment est née cette idée saugrenue?
Aïe, aïe, aïe. L'idée est née... Je remercie d'ailleurs ma fille, Lucia, donc c'est grâce à elle que j'ai écrit cet arrangement, quoi, de Gabriel Fauré. Elle jouait ce CD dans la chambre, j'entends cet air, il m'obsédait, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'elle me joue là? J'entends l'air, j'ai dit, mais je vais le reprendre ce morceau. Voilà, j'ai déconstruit un peu à la fin, j'ai joué en 5 ans, histoire de changer un peu, parce que j'aime bien le groove aussi, sinon je vais m'endormir.
Est-ce qu'on est prisonnier de la partition écrite quand on adapte une œuvre classique?
Quelque part, quand même, il y a des codes qu'il faut respecter, parce que l'instrument peut pas faire. Il y a des trucs que j'avais écrits au départ qui n'allaient pas, parce que c'était pas possible de les jouer, c'était trop, il y a un sol ici en bas, il peut pas aller plus bas que ça, donc c'est ça, il fallait que je connaisse l'instrument un peu. Donc, je parlerai de codes à ces niveaux-là. En dehors de ça, par rapport à l'improvisation, je me suis laissé un bout d'espace pour pouvoir, j'allais dire délirer un peu. M'envoler, danser.
Vous faire plaisir.
Me faire plaisir, voilà. Donc, et revenir un peu avec douceur et tendresse.
Vous êtes issu d'une région du monde où la tradition orale est prédominante. Mmh. Comment parvenez-vous à adapter à votre culture ancestrale africaine un répertoire très marqué par l'influence européenne qui est donc, comme on le disait, très écrite?
Alors, comment je fais? Diopharm, il a toujours des questions... surprenante. Honnêtement, comme je le disais tantôt, je ne prémédite pas, en fait. J'assume mes racines qui sont multiples, même si je suis très ancré dans ma culture camerounaise, que j'ai pas besoin de la brandir tous les jours. Je suis camerounais, voilà, c'est tout. Et je suis pas un musicien camerounais, mais je suis un camerounais qui fait de la musique. J'insiste là-dessus parce que je suis un esprit libre, en fait. Je sais que l'oralité est très présente dans ma façon de concevoir, qui est aussi quelque chose de fondamental dans la musique jazz. La spontanéité, la créativité, l'instant présent, hors partition, mais en respectant toujours les codes. Même dans l'oralité, c'est ce qu'on oublie parfois, il y a des codes hyper importants. Même dans la musique classique, la diversité de styles, de genres, de couleurs, de timbres qu'il y a dans cette musique-là, la richesse même rythmique aussi, que les gens oublient. Parce qu'on parle rythme, on parle toujours d'Afrique. Il n'y a pas que dans l'Afrique, il y a des rythmes. Il y a beaucoup de complexité dans cette musique. Il y a beaucoup de richesses aussi harmoniques. Des gens comme Debussy, Ravel, Stravinsky. Pour moi, c'était un jazzman, quoi. Au niveau harmonique, c'était très avancé. C'était du jazz pour moi. Donc voilà, je ne me pose pas la question de savoir si... je suis fasciné par toutes ces beautés-là qu'il y a dans ce monde, en fait. La beauté des humains aussi, la beauté des gens, la beauté de la vie... C'est ça qui m'embête un peu dans ce métier, c'est on vous associe toujours à votre phénotype. Alors ça veut rien dire. On est juste des humains, nous avons envie de jouer au ballon, jouer au football, jouer du tam-tam. Il peut y avoir un Chinois qui chante du soukous. Pourquoi pas, ça me dérange pas, c'est beau aussi. Voilà.
Eh bien écoutons ce mariage du classique et du jazz par Gino Citson, notre invité dans l'épopée. L'Élégie, opus 24 de Gabriel Fauré, réinventé par Gino Citson sur l'album Voice Strings. Vous n'avez pas peur de vous attirer les foudres des puristes en adaptant une œuvre académique?
Non, pas encore. Jusqu'à présent, j'ai eu de très bons feedbacks. Tout le monde me dit « Ah, c'est super, c'est bien d'avoir fait ça, mais ça change quand même. C'est quoi ce truc-là à la fin, là ?»
Derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire tomber les barrières raciales et culturelles?
C'est mon obsession quotidienne, en fait. Des belles personnes, il y en a partout, chez moi, ici, ailleurs, j'en sais rien, mais je me suis jamais posé la question, quoi. Même chez moi, au Cameroun, je vois les discriminations qu'on a sur place. Entre tribus, il y en a qui vont dire, ah, les Bamilékines, ce sont pas des musiciens, c'est pas pour eux. Il y en a, bon, c'est exécrable. Ça m'intéresse pas. C'est des choses qui me plaisent pas du tout. Et j'enseigne ça à ma fille, j'ai dit, mais le jour où je vais te voir pointer du doigt quelqu'un discriminé, je vais te renier, dont elle grandit avec ça aussi.
Avec des valeurs...
Des valeurs humaines, tout simplement.
Altruistes.
Altruistes, voilà.
Toute musique peut être adaptée?
Tout à fait, ouais. Ça dépend où on veut aller après, parce que l'approche, surtout, est importante, en fait. Comment vous transmettez, comment... Votre personnalité aussi, c'est important. Si vous êtes un blagueur, un tricheur ou un baratineur, oui...
Ça se voit tout de suite.
Voilà, ça se voit tout de suite, voilà.
Vous avez repris sur votre disque une phrase de Miles Davis qui déclarait en 1971 dans Jazz Magazine « Il ne se passe pas un jour sans que je sois fou de rage à cause de la discrimination raciale et comme je ne peux pas être constamment furieux, j'utilise ma musique pour exprimer ma colère. » Vous êtes un homme en colère, Gino Citson?
Ouais, je suis en colère avec... Je me dis, mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres? J'ai dit, bon voilà, parfois je me pose la question, j'ai dit, j'ai la chance, vous me recevez aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas cette chance, il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir parler même, de pouvoir s'exprimer, de dire les choses, de pouvoir écrire, d'entendre même, de voir, il y en a qui peuvent pas voir, qui peuvent pas... J'ai dit, mais je suis béni, quoi, j'ai de la chance, je suis vivant, je suis encore là, je peux parler, je peux écrire, je peux chanter, donc voilà, c'est tout, quoi, donc je peux respirer encore.
Vous qui êtes résident américain, est-ce que vous êtes inquiet des relents racistes constatés aux États-Unis récemment?
Ouf, comment ne pas être inquiet? D'autant plus que je vis dans ce pays-là et ma famille y vit, ma mère y vit. Non, c'est difficile. Je pense que ça va s'estomper à un moment, quoi. C'est pas un épiphénomène, c'est sûr, mais ça fait peur, ça fait peur. Et d'autant plus qu'on a un président comme Obama, un président noir... Ça interpelle quelque part. On s'est dit, bon voilà, avec l'arrivée d'Obama, les choses allaient changer, mais je trouve pas de mots, quoi. Je trouve ça ignoble, minable, dangereux, en fait. Mais je crois que les gens vont prendre conscience, avec l'arrivée de Clinton aussi, j'espère.
Donc vous êtes en colère, c'est bien ce que je dis.
Je suis en colère, tous les jours. Je pourrais épiloguer pendant des heures là-dessus, mais il y a toutes ces formes de discrimination. On en parle, mais au niveau des... entre blancs et noirs, mais entre tribus aussi chez nous, au Cameroun, c'est très grave, hein, aussi. Les allusions qu'on vous fait parce que vous venez d'une autre tribu, puis bon, les affrontements, ça peut déraper d'un moment à l'autre. Et là, j'interpelle les gens là-dessus, de faire attention, quoi. Et même au niveau des violences verbales, chez nous, les gens sont très violents, hein, vous savez, ils vous parlent, on insulte à tout bout de champ, quoi, donc c'est très facile. Vous conduisez votre voiture, vous insultez les gens, vous avez des enfants dans la voiture, vous vous rendez même pas compte que ces enfants, ils absorbent tout ce que vous transmettez aussi. Alors, c'est dangereux. J'en ai parlé une fois dans les médias chez moi, au Cameroun, et on m'a dit « Non, mais tu exagères peut-être ». J'ai dit « Non, j'exagère pas ».
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous exprimez des sentiments positifs à travers cet album, comme par exemple cette Suite for John, que je me passe en boucle dans le bureau tous les matins, dans l'épopée. Singularity, Une joyeuse suite pour John, un extrait de Voice Strings, le dernier album de Gino Citson, et je conseille également le clip de cette chanson qui est très enthousiasmant. Gino Citson, l'un de vos héros s'appelle Herbie Hancock. Pourquoi êtes-vous un fan invétéré de ce pianiste ?
Qui n'aime pas Herbie Hancock, Je ne sais quoi dire, parce que c'est tout simplement quelqu'un qui a bercé mon enfance et qui a influencé toute une génération de musiciens. Il est tout simplement fabuleux. J'avais envie de lui rendre hommage de son vivant, et puis en reprenant un thème de lui, quoi, écrit à ma manière, avec les cordes. Donc voilà, j'ai sollicité un ami d'ailleurs qui a écrit l'arrangement de ce morceau, Klaus Müller, que je remercie, qui m'écoutait, il est à New York. L'histoire de Herbie Hancock, enfin son travail, c'est gigantesque, tout simplement.
Il y a 4 ans, il a lancé la Journée internationale du jazz, qui promeut des valeurs de tolérance et de respect entre les peuples. En quoi le jazz peut-il être un vecteur d'apaisement et d'écoute mutuelle ?
Tout simplement, le jazz, déjà, c'est une musique qui épouse toutes les formes musicales, qui peut épouser toutes les formes musicales, du rock, du classique, du soukous, du makossa, du benskin,
du bikutsi,
voilà. Donc, sans toutefois perdre sa nature, quoi. C'est une musique ouverte et généreuse, c'est une musique de liberté, de freedom, de l'improvisation.
Herbie Hancock avait repris le concerto pour piano et orchestre de Maurice Ravel en 1998. Et Pierre Akendenge, dans un autre genre, avait adapté le prélude de la partita pour violon numéro 3 de Jean-Sébastien Bach. Prélude de la partita pour violon numéro 3 de Jean-Sébastien Bach sur l'album Lambarena de Pierre Akendenge. Vous connaissiez cette adaptation, Gino Citson ?
Oui, bien sûr, j'ai l'album chez moi.
Je n'en doutais pas.
Magnifique.
En tout cas, ce titre que nous venons d'entendre prouve que les croisements entre patrimoine africain et européen ne datent pas d'hier. Quand avez-vous commencé à vous intéresser au répertoire classique, vous ?
Oula, depuis 20 ans, hein, quand j'étais ici en France, en fait. Donc je m'intéressais à ça, à ce répertoire-là. Mais je n'ai jamais pensé au départ à cette association de musique classique et musique jazz ou bien afro-camerounaise. L'idée m'est venue tout récemment, j'avoue, hein, depuis, quand je dis tout récemment, depuis 10 ans en fait. Non, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais je m'intéressais déjà à la musique classique. J'aime beaucoup, j'écoute des concerts, je vais à l'opéra. D'ailleurs, pour revenir aux inflexions classiques, à la musique classique, il y a des morceaux même de mon album Way to Go, quand on écoute, il y a des petites couleurs classiques dans l'arrangement, même le jeu du piano, quand j'écrivais. Le pianiste me l'a fait savoir d'ailleurs. Il m'a dit « Ah, ça me rappelle, bah, tout ça. » J'ai dit « Ah bon, je ne savais pas. » J'y ai pas pensé. En fait, je prémédite pas une fois de plus. C'est que comme c'est, toutes ces influences sont là et que je me nourris de tout, quoi. Je me nourris
Vous êtes
de
une
tout.
Éponge.
Je suis une éponge, comme un enfant. Je ne vous pose pas la question.
Gino Citzen, au-delà de votre expertise musicale, il y a des messages à capter dans votre nouvel album. Quel est le dénominateur commun aux 16 titres qui composent Voice Stream?
Rassemblement, positive attitude, liberté, amour. L'idée du rassemblement, ça vous parle sans doute à la fin de l'album avec The Gathering, un morceau que j'ai écrit la veille de l'enregistrement. Je l'ai fait, en fait, quand je l'ai ramené au studio, ils m'ont dit « Mais what's this ?» Il dit « Mais c'est compliqué ton truc-là. » J'ai dit « Non, non, vous allez voir, ça va aller. » Je sais comment on va parler. J'ai dit « Mais gars, ça ira, ça ira. » Et on a joué, ça s'est bien passé. Mais j'essayais quelque chose, en fait. J'entendais. En fait, j'ai la chance d'entendre un orchestre. J'entends l'orchestre. Et ce que j'enseigne, d'ailleurs, aux chanteurs, c'est de pouvoir entendre l'orchestre quand on joue. Si vous chantez une note, vous chantez votre partie de voix, vous devez être capable de savoir que le bassiste est en train de jouer ça, le batteur joue ça.
Mais ça, c'est le rôle du directeur artistique, c'est le rôle du chef d'orchestre.
Mais un chanteur devrait être un musicien. C'est un musicien dont il faut qu'il soit capable, surtout si c'est son répertoire, il faut qu'il soit capable de dire que là, c'est pas ça. C'est ça la ligne que tu dois jouer. Là, c'est telle ligne. C'est telle note que tu dois jouer. J'entends un orchestre. Donc j'ai cette obsession à vouloir tout entendre avant d'écrire même. J'entends, je dis, ah, je le vois jouer du haut de là, ici. Ah oui, il va faire ça. Ça, il va faire ça. C'est comme une peinture, en fait. Vous entendez un truc, vous dites, voilà, vous entendez, vous devez entendre tout ça, quoi. Vous entendez, il faut être toujours prêt, quoi. Quand vous aurez l'occasion de venir à mes masterclass, vous verrez comment je procède, en fait. Alors, parfois, beaucoup de chanteurs chantent dans le but de séduire seulement le public. Je dis, non, respirez, quoi. Soyez à l'aise, vous n'êtes pas seul sur scène. Quand je joue en solo, je joue solo, mais j'entends tout l'orchestre, en fait. Donc, je chante une note, je sais qu'ici, je vais faire un sol ici, je fais un fa la, je sais que l'autre, le violoncelle, aurait pu faire ça. Quand vous faites des missions, vous faites des missions, vous êtes là, vous ne regardez pas Nathalie, mais vous savez que Nathalie est là. Vous êtes connecté. C'est la même chose.
C'est vrai.
Nathalie qui nous sourit de l'autre côté de l'antenne.
Nathalie, on le rappelle, réalisatrice de cette émission.
De cette émission.
Depuis toujours.
Voilà.
Nous allons clore cette émission avec Timeless Mood. Là aussi, vous aviez en tête tout le spectre sonore de cette chanson.
Ah oui, ce morceau-là, oui. Mais je le joue aussi parfois en trio avec violoncelle et alto, juste avec les cordes. Et ça fonctionne bien, d'autant plus que la violoncelliste chante aussi. Donc elle fait des voix, elle est extraordinaire. Jody Redditch, que je salue ce soir, mesdames et messieurs.
En tout cas, un jeu de voix réjouissant. Tac, boum, tac, boum, tac, 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 boum. Timeless Mood, Gino Citzen en 2015 sur l'album Voice Strings, paru chez Buddha Records. Merci Gino Citzen de votre venue à Paris pour nous retrouver ici en studio.
Merci beaucoup Dieu Farmer.
Vous étiez il y a peu au petit journal Montparnasse, tout oui. S'est bien passé?
Très bien, très bien. Bonne ambiance et des gens très chaleureux. Et...
dans la joie et de la bonne humeur.
Voilà, c'est facile.
En tout cas, je vous souhaite de revenir plus souvent en France pour donner plus de concerts et plus de prestations.
Merci beaucoup.
L'émission du jour était réalisée par l'Africaine de cœur, Nathalie Laporte. N'oubliez pas Facebook et Twitter. D'ailleurs, vous utilisez beaucoup Twitter. C'est
oui,
vrai, hein.
Oui.
Je vous suis de près à travers Twitter. Je sais même quand il neige à New York.
Ah je suis un tweetologue.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci, Joe.
Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants. Le journal.
Écoutez.